Nicolas Feldman, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur financier d'Anxéo. On va revenir avec vous sur vos résultats annuels et puis sur les perspectives. Qu'est-ce que vous retenez-vous de cette année 2016 pour Anxéo?
Alors 2016, ça a été une année extrêmement riche, une année où finalement on a accentué notre virage stratégique vers le traitement des cancers rares. C'est vraiment ce qui aujourd'hui fait la marque de fabrique d'Anxéo, c'est le traitement de ce qu'on appelle les cancers orphelins. La marque, enfin l'élément essentiel, ça a été l'acquisition d'un nouveau produit, hein, l'acquisition d'un produit qui s'appelle Acidna, qui est dans le domaine de la réparation de l'ADN. On a acquis cette société qui s'appelait DNA Therapeutics, qui était issue de l'Institut Curie notamment, qui a fortement renforcé le portefeuille. Aujourd'hui, Acidna est un des trois produits dans le domaine des cancers rares du portefeuille d'Anxéo. Et on a commencé à travailler activement sur ce produit, et je pourrais revenir sur certains aspects du début du développement, en tout cas du plan qu'on est en train de poursuivre et qui doit nous amener à rentrer en clinique avant la fin de l'année 2017. On a bien sûr poursuivi le recrutement des patients dans notre étude de phase 3 dans le cancer primitif du foie avec l'Ivatag. Je crois
Ça,
que c'est.
c'est l'élément clé un petit de suivi en tout cas par les vos actionnaires.
Exactement, je pense que c'est
Parfait.
un des catalyseurs majeurs de l'année 2017. C'est vrai que c'est un résultat de phase 3, donc c'est vraiment la sanction, en tout cas le bénéfice d'années de développement qui va se concrétiser à ce moment-là. On a également beaucoup évolué au niveau du management, encore très récemment cette année. On a fait évoluer notre conseil d'administration avec un nouveau président, avec un renforcement des compétences de R&D avec deux personnalités, Jean-Pierre Bizzari et Jean-Pierre Quinet. Et tout récemment, on a annoncé qu'on venait de recruter un Chief Medical Officer et un Chief Scientific Officer qui viennent renforcer l'équipe pour assurer la gestion de tous nos produits.
Aujourd'hui, il y a ce besoin-là, compte tenu des différents développements que vous avez, puisqu'on en parlait du Livatag, il y a aussi le Beléodac, pardon, et d'autres produits, il y a besoin de structurer l'entreprise.
Oui, en fait, ce qui est très distinctif chez Onxéo, c'est un portefeuille extrêmement diversifié, trois produits qui sont sur des technologies différentes et dans bien sûr des pathologies différentes ou des axes différents. Donc il faut des équipes extrêmement bien outillées. On a des gens qui ont eu des expériences dans des big pharma et qui permettent effectivement de gérer toutes ces facettes d'un développement qui sont relativement complexes. Je dirais autant sur le plan d'ailleurs des tests chez l'homme hein, ou chez l'animal que sur la partie de développement industriel.
Aujourd'hui, par exemple, sur le Beléodac, il y a des ambitions d'étendre le potentiel actuel avec combinant.
Oui, on a acquis Beléodac il y a 2 ans et demi. C'est un produit qui aujourd'hui est positionné dans le domaine, enfin dans un cancer extrêmement petit, hein, qui est un cancer très orphelin, qui est le lymphome à cellules T périphériques, qui concerne à peu près 50 000 patients dans les grands pays, dans le monde. Nous, notre objectif, c'est de nous différencier de la concurrence des autres inhibiteurs de HDAC en développant une formulation orale. Et avec cette formulation orale, d'essayer de se combiner avec des produits d'immunothérapie, hein, les fameuses immune checkpoint inhibiteurs dont on parle beaucoup, pour envisager des applications beaucoup plus larges et potentiellement intéresser des partenaires de plus grande envergure.
Aujourd'hui, il y a effectivement peu de revenus encore, hein, quand on regarde les chiffres de 2016. La trésorerie, vous dites à peu près autour de 29 millions d'euros, c'est ça?
C'est le chiffre effectivement de la trésorerie de fin d'année. On a eu un bon équilibre finalement de la gestion du cash autour de 2016 puisqu'on a renforcé nos ressources avec un placement privé fin septembre qui nous a apporté environ 12 millions d'euros. On a un crédit d'impôt recherche aussi qui finance de manière significative nos dépenses de R&D. Et finalement, le cash burn net de l'année n'est que de quelques millions. Pour une consommation, on va dire, brute de trésorerie d'une vingtaine de millions. Donc, cette réserve de cash de fin d'année nous permet d'avoir un horizon jusqu'à début 2018. C'est finalement quelque chose qui nous permet d'avancer sereinement et de développer tous nos programmes voilà, d'investir efficacement, en tout cas, sur chacun d'eux.
On voit les actionnaires hein, qui vous suivent depuis longtemps hésiter justement sur le potentiel de l'entreprise, ce que vous avez rappelé à l'instant, et puis ces risques d'augmentation de capital qu'on voit sur qu'on a pu voir avec vous, qu'on a pu voir sur d'autres biotech. Qu'est-ce que vous leur dites sur, justement sur cette année 2017, puisqu'il y en a certains qui disent, ah bah, de toute façon, Onxéo n'échappera pas à une nouvelle augmentation de capital.
Je crois qu'on est malheureusement, en tant que biotech, dans un univers qui est délimité par le cash disponible à un instant T. Et c'est vrai que dans l'environnement français, le niveau de financement des biotech au sens large est relativement faible comparé aux États-Unis, par exemple. Donc, ça suppose de revenir régulièrement vers le marché pour faire des levées de fonds, sauf à avoir d'autres sources de financement qui peuvent être des sources de financement via des accords de licence. Et Onxéo l'a prouvé dans le passé. Donc, bien évidemment, le recours au marché fait partie des options qui s'offrent à nous dans un futur proche. Et je pense que ça ne surprendra personne que ce soit une des options sur la table. Mais notre objectif, c'est effectivement de trouver les moyens de financer le plus efficacement l'entreprise pour avancer nos programmes et ne pas perdre de temps. Hein, parce que je pense qu'on est dans un domaine qui est le domaine, un domaine où il y a un besoin médical extrêmement fort, hein, des patients qui attendent des traitements et on se doit finalement de trouver des solutions et d'avancer le mieux possible dans ces programmes.
Ce qui peut faire varier les choses ou le calendrier, ça va être si vous mettez en place ou si vous trouvez aussi des accords de partenariat, de nouveaux accords de partenariat.
Oui, tout à fait. Et je pense qu'un actif comme l'Ivatag, qui arrive au bout de son développement, est effectivement dans l'étape d'après un candidat à des accords de licence. Et notre objectif en tant que biotech, c'est d'amener tous nos programmes à un point d'inflexion qui permettra d'intéresser un partenaire. Et du coup, des approches que l'on a en combinaison avec des traitements existants peuvent bien sûr intéresser les sociétés qui, elles, commercialisent ces traitements existants. Donc on essaye effectivement d'avancer avec cette idée en tête qu'on ne fera pas le chemin tout seul jusqu'au bout, ce serait dangereux et ça, c'est vrai que c'est quelque chose de très coûteux, mais de pouvoir s'allier au moment opportun et le plus tôt possible dans le développement du programme.
Merci Nicolas Feldman d'avoir fait le point avec nous aujourd'hui.
Merci beaucoup.